Bonjour à tous, l'heure a sonné, hein. Le débat de midi est ponctuel, midi 4 on va dire. Voilà, on a fin de discussion et ne croyez pas les militants du régime ici, on en veut pour notre gourmandise et notre cerveau sera bien nourri. Alors pour tout vous dire d'ailleurs, j'ai failli être en retard pour le début de l'émission car j'étais en train de jouer au dernier Zelda. Et je suis pas le seul, hein, puisque depuis sa sortie en mai dernier, le jeu vidéo s'est écoulé à 18 millions d'exemplaires de par le monde. Et ce n'est que le début puisque l'année prochaine s'annonce costaud avec notamment une sortie d'un nouveau Assassin's Creed notamment. Ah, vous êtes perdu en fait, c'est ça, hein, depuis le début de cette introduction. Eh bien, c'est que vous vivez dans un monde parallèle. Et oui, le jeu vidéo, c'est 300 milliards de recettes mondiales, plus que l'industrie du cinéma et du disque réunis chaque jour. Un Français sur quatre se crève les yeux sur un jeu vidéo, que ce soit sur une console, un ordinateur et bien sûr sur son téléphone portable. Ne parlons pas de l'engouement pour le e-sport, où d'énormes salles sont désormais remplies par des champions de jeux vidéo qui s'affrontent, ou même de Mario Bros qui remplit les salles de cinéma au printemps. Et pourtant, c'est comme si le jeu vidéo était toujours à part. Et oui, rares sont les sorties à intéresser les grands médias. L'un des succès de l'année, Diablo 4, a été évoqué, mais jamais au même niveau qu'un long métrage qui aura du mal à passer deux semaines en salle. Étrange couple que celui des médias et des jeux vidéo, qui habitent dans le même appartement mais ne se parlent pas, à moins que tous les problèmes de la société soient la faute des jeux vidéo, comme le disent certains, et même un président de la République, hein, lors des récentes émeutes, un chef de l'État qui pourtant appartient à une génération qui a grandi avec les jeux vidéo. Oui, il y a de l'étrangeté à tout cela. Alors on parle de notre rapport aux jeux vidéo dans le débat de midi et on veut entendre votre avis via vos notes vocales et messages sur appli France Inter et par WhatsApp également au numéro suivant 07 64 13 70 07 07 64 13 70 07. Voilà, débat de midi se pixelise et puis en plus, eh bien voilà, j'ai aussi joué à Mario 4 avant de venir, donc il faut que j'évite, hop, cette peau de banane. Décidément, le débat de midi, on appuie sur start et c'est parti.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi sur France Inter.
Et pour parler, eh bien, de cet étrange couple, hein, média-jeux vidéo, nous recevons Héloïse Linossier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, cofondatrice d'un nouveau média indépendant spécialisé dans les jeux vidéo Origami. Ça sortira en septembre 2023.
Exactement.
Ça consiste en quoi ?
C'est tout simple. En fait, c'est un média qu'on... Enfin, c'est tout simple.
Non, mais
je vais expliquer de
simple,
manière simple,
simple.
Mais est-ce que c'est simple ? Je ne sais pas. C'est un média protéiforme. En fait, on va être principalement sur Internet, mais pas sur un site comme on peut le voir souvent. On sera sur les différents réseaux sociaux et plateformes de diffusion comme Twitch, YouTube. Et puis, on ne s'interdit pas aussi de faire de l'écrit, parce qu'on aime bien ça.
Et bien sûr, ça s'appelle Origami. Et vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi c'est important en matière de jeux vidéo d'être un média indépendant aussi. Alors, on reçoit également Sunday. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes streameuse. Alors, qu'est-ce que c'est que streameuse, notamment streameuse en jeux vidéo ? Pour bien expliquer, si je devais vous demander une fiche de poste.
Une fiche de poste. Alors, je suis devant mon écran et je propose du contenu sur Internet, sur une plateforme de diffusion qui s'appelle Twitch, qui est une plateforme de diffusion en direct et où je me filme littéralement à jouer aux jeux vidéo et surtout à échanger avec des gens qui me regardent, avec qui on discute, on fait des blagues. Bref, on est vraiment sur un contenu autour du divertissement.
Est-ce que vous seriez un petit peu l'équivalent de ce qu'on peut trouver pour les critiques cinéma ? critique de jeux vidéo, c'est-à-dire que vous jouez, vous testez les jeux et vous donnez votre avis. Est-ce que c'est un peu ça ?
Je me considère pas du tout comme une critique ou quoi que ce soit. Ouais. Je suis plus une joueuse un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de dire.
Ouais.
En tout cas, comme les gens qui me regardent. Et moi, je suis vraiment là avant tout pour amuser les gens et pour leur faire passer un bon moment, pour les divertir.
Alors, nous recevons également Paul Arrivé. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un journaliste d'une nouvelle espèce, on va dire ça comme ça,
ouais,
mais qui va surtout, à mon avis, se multiplier dans les années à venir, puisque vous êtes journaliste e-sport.
C'est ça.
À l'équipe.
Ouais, c'est ça. Ça va peut-être un peu plus parler
aux
gens que Twitch.
Ouais, exactement. Alors, l'équipe, en effet, le quotidien sportif
c'est
de
ça.
Référence en France. Et vous êtes le seul au sein de cette rédaction ou pas ?
Pas tout à fait. J'ai un voire deux pigistes qui travaillent avec moi, mais à temps plein, en CDI, je suis le seul à travailler sur l'e-sport. Oui.
Et donc l'e-sport, donc si vous pouvez expliquer juste ce que c'est ?
C'est le sport électronique, c'est la contraction de sport électronique, ce sont les compétitions de jeux vidéo. C'est comme du sport, hein, concrètement comme des sports. Il y a plein de jeux avec des structures compétitives, des champions, des trophées. On remplit des grandes salles.
Des très grandes salles, notamment. On était donc il y a eu l'Arena, il y a eu Bercy et même le Comité international olympique. Le CIO s'y intéresse et organiser une compétition en Asie.
Ouais.
On va en parler tout à l'heure. Et également Boris Kriwicki. Bonjour.
Bonjour.
Bon, voilà, vous êtes journaliste au service Pixel au Monde. Alors, Boris, ça veut dire que donc aussi.
Ah non, non.
Alors.
Non, je suis chercheur.
Chercheur, pardon, excusez-moi. Voilà, alors j'avais mal noté, en effet, votre fiche, pardon. Justement, vous, pourquoi vous vous intéressez aux jeux vidéo en tant que chercheur ?
Ben, je m'intéresse à la presse spécialisée et aux techniques d'enquête des journalistes spécialisés en jeux vidéo. J'essaye de prouver que l'enquête, on peut en faire partout, y compris au sujet des jeux vidéo.
Voilà, très bien, et ben voilà, il faut le noter. Alors, on va parler justement de cette question qui nous anime aujourd'hui. Héloïse Linossier, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un rapport très étonnant entre les grands médias, même France Inter, on en fait partie, des grands médias et le jeu vidéo. On a l'impression, là j'ai cité quelques chiffres, en effet, économiquement, c'est une industrie assez folle, 300 milliards de recettes de dollars, 300 milliards de dollars de recettes par an pour le jeu vidéo, et pourtant on en parle assez peu. Comment ça se fait ?
Alors je pense qu'il faut remonter dans les années 90 pour expliquer tout ça. C'est un rapport social mais global en fait qu'il faut aller chercher derrière le jeu vidéo. Dans les années 90, en 93 très exactement, il y a le jeu Doom qui sort, et alors là c'est une panique morale parce que Doom c'est quoi ? C'est on est le Doom Guy, donc c'est un gros monsieur avec des grosses armes et qui tire sur des démons et sur des monstres. Et c'est gore, voilà, comme on trouve des films gore. Comme... Mais il y a un sénateur républicain qui va se saisir de cette chose pour
américain.
Dire... Américain, oui. Mmh. Et pour dire, regardez, c'est ce qui rend nos jeunes violents, regardez, c'est ça le problème. Et on va construire du coup toute une sorte de réputation autour du jeu vidéo qui est quelque chose qui isole les personnes, quelque chose qui mène à des comportements violents, qui mène à une bêtise peut-être même voilà, tout ça. Et du coup, on va avoir un désintéressement la presse généraliste qui va se dire « bah non, ça, c'est pas pour nous, c'est pas la culture avec un grand C, ça nous intéresse pas, c'est pour les gamins qui ont des problèmes, finalement. »
Et maintenant, malgré le fait qu'aujourd'hui, eh bien, ça soit une génération qui a toujours connu les jeux vidéo, qui a grandi avec, puisque rappelons quand même que les jeux vidéo, ça date de la fin des années 70, eh bien, les mentalités ne changent pas.
Non. Non, les mentalités ne changent pas parce qu'il y a des rappels à cet héritage-là. Vous parliez du président qui
oui,
parle d'intoxication des jeunes. Il y a ce genre de choses. Il y a Donald Trump qui l'a utilisé pour pas mal d'épisodes. Et puis, il y a aussi une fracture, je pense, générationnelle quand même, qui est que quand on a eu ce discours-là, quand on était jeune adulte, on a du mal à s'y intéresser. On reste bloqué sur cette idée-là. Après, il y a quand même des meilleurs discours qui commencent à naître, oui. Mais de manière épisodique.
Alors, on va parler de ça dans un instant, mais Paul Arrivé, en effet, vous-même, au sein de l'équipe, est-ce que ça a pu paraître étonnant de se dire que quand un rédacteur en chef ou un directeur dit maintenant, il faut s'intéresser aux compétitions de e-sport, est-ce que au sein de la rédaction, ça a pu grincer un peu ?
En fait, c'est assez paradoxal parce que moi, finalement, on m'a fait confiance. On m'a dit, tiens, tu vas t'occuper de l'e-sport à l'équipe et toutes ses composantes. Mais ça reste quand même un sujet qui est assez peu traité et considéré à l'équipe. Est-ce que ça a choqué, dérangé certains ? Je pense un petit peu ici et là. C'est comme disait Héloïse, de toute façon, cette idée-là que le jeu vidéo... Enfin, pendant longtemps, on a vraiment dit que le jeu vidéo était quelque chose de désociabilisant, qui renfermait sur soi. Pour les gamins, puis d'un coup on revient, on rattrape les gens par la manche et on leur dit non, finalement c'est des athlètes. C'est compliqué à comprendre pour certains, pour des gens qui ne considèrent pas le jeu vidéo et qui le considèrent encore moins comme une discipline qui peut être compétitive et a fortiori sportive. Des réfractaires, oui, il y en a, des gens qui comprennent pas pourquoi l'équipe parle de ça. À l'intérieur du média, je pense qu'il y en a un petit peu. Il y en a beaucoup plus autour, des gens qui commentent un peu les articles, ça m'arrive assez régulièrement. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très ouverts à ça, qui sont curieux, qui essayent de comprendre, qui me posent des questions. Enfin, ça reste quand même un média, ça reste quand même des journalistes, donc il y a quand même cette curiosité, mais il y a quand même encore ce détachement un peu... Voilà, quand il y a une grosse compétition un week-end, si je ne suis pas là pour leur rappeler, ils ne vont pas le voir d'eux-mêmes.
Oui, c'est ça. Sunday, est-ce qu'on le sait un peu comment le secteur, donc je le disais, qui génère énormément d'argent, comment il vit cette sous-médiatisation ? Est-ce qu'il en souffre, finalement, d'après vous ?
C'est-à-dire,
est-ce qu'il en souffre de cette sous-médiatisation quand on voit, par exemple, des jeux vidéo, en effet, qui ont des succès énormes et dont aucun média ne parle, est-ce que ça peut être embêtant ? Est-ce qu'on en parle, justement, dans le milieu du jeu vidéo ou alors on a fait presque sécession et on s'en occupe plus maintenant ?
Je crois qu'il y a un peu ce côté où on s'en occupe pas vraiment plus que ça, en fait. On se pose pas vraiment la question. Il y a des communautés de joueurs qui sont ensemble, qui partagent une même passion commune autour de quelque chose. Et il y a eu pendant assez longtemps un côté un peu stigmatisant du jeu vidéo,
ouais.
Où eh bien, si on est stigmatisé, si on est mis de côté, alors tant pis, on va juste partager avec des gens qui approuvent, qui apprécient, ou des gens qui sont curieux des fois, tout simplement aussi. Hein. Mais effectivement, je pense qu'il y a une séparation à ce niveau-là qui est assez claire. Ouais.
Oui, parce que vous pensez aussi le fait que, alors ça c'est une question vraiment aussi d'éducation, par exemple aux médias, ça veut dire le fait que des grands médias qui ne parlent pas des jeux vidéo, est-ce que ça fait qu'à un moment, quand on s'intéresse, nous, aux jeux vidéo, après on ne veut pas aller vers ces genres de médias parce qu'ils ne s'intéressent pas à nos passions? Est-ce que vous pensez que voilà, ça peut aussi embêter par rapport à ça?
Oui, il y a peut-être une déconnexion au niveau des sujets qui sont évoqués. C'est vrai que si les centres d'intérêt qu'on a ne sont pas évoqués par certains grands médias, au bout d'un moment, on peut se sentir un petit peu en décalage avec le sujet. Là où, bah justement, sur d'autres médias qui sont... on parlait, par exemple, de Twitch, c'est d'une certaine forme de média, donc oui. Une plateforme de diffusion où les streamers viennent échanger avec leurs spectateurs, tout simplement. Là, on peut ressentir beaucoup plus cette proximité avec les gens, avec des centres d'intérêt proches. Je pense qu'effectivement, il y a un désintéressement lié à ça.
Ouais, c'est ça. Alors, Boris, Krivicki, pour vous... On va poser une question assez simple, tout simplement. Est-ce que cette industrie qui est si forte a encore besoin des médias ?
Non, bien sûr que non. Ça fait longtemps qu'elle n'a plus besoin des médias. Elle fait sa communication autonomisée. Et on a vu exploser ça au moment du confinement, où les grands salons de communication du jeu vidéo sont passés en ligne et où ils se sont rendus compte que ça fonctionnait très bien. Et que, en fait... balancer directement leur communication auprès des joueurs et des joueuses sur les réseaux sociaux, en direct, dans des flux vidéo, ben, c'est finalement ce qui va générer le plus d'attention. Et donc, ben, l'industrie du jeu vidéo continue épisodiquement à collaborer avec les médias, elle dialogue avec eux, mais ils ne sont pas leur priorité. Et surtout, ils n'ont pas besoin de ces médias pour exister, comme c'était le cas avant Internet, dans les années 90, comme en parlait Héloïse Minossier.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ils disent, quand vous dites ils n'ont pas besoin de ces médias pour exister, ça veut dire qu'aussi, ils ont leurs propres médias.
Ils ont leurs propres canaux de communication, tout à fait. Ils ont leur propre chaîne, leur propre compte sur les réseaux sociaux. Et c'est avant tout par là qu'est véhiculée l'information. Ils vont organiser leurs conférences en direct. Vous parliez de Zelda, de Mario Kart. Nintendo fait beaucoup ça. Hein. Ils appellent ça les Nintendo Direct. Et donc, c'est Nintendo qui décide à une heure précise, toujours. Bah là, on va annoncer une nouveauté. Et les journalistes ont très peu de marge de manœuvre par rapport à ça et très peu de valeur ajoutée. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder la conférence comme tout un chacun et la commenter en direct. Heureusement, les journalistes ont d'autres atouts dans leur manche pour se démarquer, pour apporter une valeur ajoutée. Mais pour la communication autour des nouveautés, les journalistes n'ont plus grand-chose à apporter.
Héloïse Linossier, est-ce que aussi le problème de beaucoup dans les médias, c'est de dire bah, les jeux vidéo, ça n'intéresse que les adolescents et donc c'est pas eux qui vont nous écouter, nous lire, nous regarder, alors que la moyenne d'âge c'est de 34 ans quand même d'un joueur de jeux vidéo en France.
Ouais, moi j'ai une anecdote qui est particulièrement marquante à tout début de ma carrière quand j'arrive au concours d'école de journalisme, donc c'est une formation généraliste et que je présente mon projet en entretien de motivation. Je dis que je veux devenir journaliste jeux vidéo et alors là immédiatement j'ai eu la question... Non, c'était même pas une question. J'ai eu « Mais les jeux vidéo, ça rend violent. » Donc on est dans un entretien de motivation où je dois présenter mon projet, expliquer mon parcours professionnel jusque-là, expliquer ce que je veux faire plus tard. Et j'ai eu 20 minutes de ça avec juste une dernière question qui m'a achevée, qui était, donc il y a eu 20 minutes de ça, « Quels sont les trois enjeux contemporains du journalisme ?» Donc voilà, ça a été un entretien et ça m'a mis directement dans, on va dire, dans le grand bain. Du fait que dans les médias généralistes, malheureusement, à part quelques postes, à part quelques... Bah, comme Paul, par exemple, qui a pu trouver du coup ce poste qui est unique, je crois.
Ouais, je pense vraiment... dans l'e-sport, vraiment, j'ai de la chance que l'équipe ait décidé.
Ouais, c'est ça.
Il y a au Figaro, il y a une ou deux personnes qui s'occupent, mais c'est pas du coup au service culture, c'est au service Tech Echo, si je me trompe pas. Et au Monde, ils ont créé du coup un service indépendant. Donc là, je me suis direct dit, ok, d'accord, bon, on va peut-être se tourner vers la presse spécialisée. Et la presse spécialisée est en crise, certes, mais elle existe encore.
Voilà, il y en a plus énormément parce que qu'est-ce qui a pu le remplacer justement? C'est les réseaux, c'est YouTube, c'est Twitch aujourd'hui qui a remplacé cette presse-là.
Bah, oui, par exemple. C'est Lady Sunday, par exemple, du coup est là. En fait, on a eu aussi beaucoup de départs, comme le disait Boris Krikouki, pardon. Il y a eu beaucoup de de départ d'annonceurs du jeu vidéo. Moi, avant, j'étais dans la presse magazine, des magazines qui étaient le principal support, du coup, la principale lecture des joueurs jusque-là, vu qu'on ne trouvait pas dans les médias généralistes. Il y a eu beaucoup d'annonceurs qui sont partis justement pour se tourner vers des publics peut-être plus denses maintenant avec Internet du côté de Twitch et de YouTube. Et il y a eu la presse du papier, il y a eu la crise du papier qu'on peut parler. Voilà, une crise qui dure, c'est même plus une crise à partir de ce moment-là. Il y a eu Prestalis qui était une crise de distributeur de papier. Donc oui, en fait, il y avait ces magazines-là spécialisés qui étaient le principal support de lecture des joueurs, qui est en train de disparaître et qui laisse la place en fait à pas mal d'autres choses. Et les médias généralistes ne prennent pas du tout le relais en fait.
Sunday, il y a aussi une contradiction assez étonnante. On le voit hein, quand on prend les transports, beaucoup de gens jouent sur leur portable. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure sur l'économie. Hein, c'est ça aussi qui a donné aux jeux vidéo une ampleur assez impressionnante. Et pourtant, les gens qui jouent sur leur portable ne se disent pas joueurs de jeux vidéo.
Oui, il y a...
C'est étonnant, non ?
Il y a un décalage dans l'image qu'on a. En fait, il y a peut-être cette image aussi du gamer, effectivement, donc du joueur, qui est une personne chez lui, enfermée devant son ordinateur ou sa console, qui joue à des jeux violents. Là où c'est vrai qu'en fait, les jeux vidéo, c'est tellement vaste. Ça peut être effectivement des jeux sur téléphone, mais même, je repense à cette période, malheureusement, quand il y a eu la crise sanitaire, il y a eu le confinement, tout le monde était sur sa Switch en train de jouer à Animal Crossing. C'était une période merveilleuse.
Merveilleuse
dans le sens où pour les dans un contexte qui était terrible, mais à côté, le jeu vidéo a lié les gens en fait ensemble et a permis vraiment dans une période compliquée d'avoir des souvenirs positifs liés à certains événements. Ça, je pense, permis à beaucoup de gens de s'évader sur ce concept-là. Et c'est vrai que on a tout de suite cette image directement d'un joueur, d'une personne un peu acharnée, là où en fait il y a beaucoup de dimensions beaucoup plus casual, c'est-à-dire beaucoup plus monsieur et madame tout le monde, en fait,
bien
finalement.
Sûr, bien sûr,
Et le téléphone dans les transports en commun, c'est typiquement un exemple de ça. Combien de personnes jouent simplement à Candy Crush ? C'est du jeu vidéo.
Vous êtes sûrement en train de nous écouter aussi.
Sûrement,
en train de nous écouter. Paul Arrivé, c'est aussi ça qui est étonnant, c'est qu'il faut aussi de temps en temps casser un peu ce cliché de dire que le joueur n'est qu'un garçon en train de manger une pizza tout seul dans un pavillon au fin fond de la campagne et qu'il a forcément quelque chose de violent à côté de lui, soit une arme ou une batte de baseball, mais surtout la solitude en gros, c'est, on le voit ça, c'est la peur de beaucoup de parents, en gros de dire « Ah, mes enfants jouent aux jeux vidéo, ça va les isoler du reste de la société. »
Pour le coup, dans l'e-sport, c'est souvent l'inverse puisque c'est quand même assez globalement des jeux d'équipe, donc voilà, pour réussir à être performant dans une équipe, il faut réussir à bien s'entendre, créer une cohésion d'équipe, une synergie, donc ça va un peu à l'encontre de ces idées reçues-là. Et moi, je le vois en suivant les compétitions, que ce soit à distance ou physiquement, quand je vais couvrir un événement. On n'a pas affaire à des gens complètement désociabilisés. Au contraire, vraiment, moi, je viens du sport. J'ai fait des études pour devenir journaliste de sport. Et honnêtement, je ne vois pas la différence entre quand je couvrais un match de foot ou un tournoi de tennis et aujourd'hui, quand je le fais dans l'e-sport, dans la manière de faire, que ce soit les joueurs eux-mêmes, les coachs autour d'eux ou moi dans mon travail, c'est exactement la même chose. Et voilà, on ne dirait pas d'un joueur de foot qu'il est isolé, etc. C'est aussi bête que ça, quoi. Genre, vraiment, j'ai du mal à concevoir cette idée-là.
C'est toujours aussi autant de clichés. C'est vrai qu'il y a énormément de clichés autour du jeu vidéo. Boris Kriou, qui voulait réagir.
Oui, c'est très important, en fait, ce que vient de dire Paul. C'est ce qu'il faut comprendre et ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, c'est que le jeu vidéo est une matière journalistique comme une autre, en fait. Et ça va dans les deux sens. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus l'évangéliser. Donc, c'est important, effectivement, que le jeu vidéo reprenne une place dans les médias généralistes, mais il faut pas non plus qu'on en vienne à uniquement voir ses bons côtés. C'est le rôle des enquêtes que peuvent mener des journalistes spécialisés ou non, mais des journalistes qui vont tout simplement prendre le temps de s'intéresser au système, à ses rouages particuliers, de montrer que c'est un endroit qui a ses travers aussi, avec des heures supplémentaires excessives, avec parfois du mal-être au travail pour les développeurs et développeuses de jeux vidéo. Le jeu vidéo peut aussi avoir d'autres vertus culturelles. Il peut, comme on le disait, pendant des périodes difficiles comme le confinement, être un lieu de refuge. Donc voilà, tout ça, c'est important. Et on peut faire des articles au sujet du jeu vidéo, comme on peut en faire à propos de n'importe quoi d'autre de la société.
Oui, alors après, il faut se méfier aussi de temps en temps, Héloïse, de certaines enquêtes. Là, j'étais tombé sur une enquête anglaise qui disait que il fallait jouer aux jeux vidéo au travail parce que ça permettait la concentration. Alors moi, personnellement, ça n'a jamais marché.
Alors, vous savez que
je ne sais pas s'il y a beaucoup d'employeurs qui...
Et maintenant, j'avais creusé une start-up qui disait essayer de mettre en place des parties de jeux vidéo pendant les entretiens d'embauche. Donc il y a une petite gamification au travail, il faut trouver l'équilibre évidemment.
Gamification, qu'est-ce que ça veut dire gamification?
Gamification, ça veut dire qu'on récupère les codes du jeu vidéo,
ouais.
Qui est tu fais quelque chose, tu es récompensé.
D'accord.
Voilà, et on essaye de l'appliquer à d'autres milieux pour essayer de pousser les personnes à avoir une autre motivation en fait derrière.
D'accord, très
donc,
bien.
Ouais, non, c'est un terme que moi j'apprécie pas forcément parce que je trouve que c'est un peu récupérer les atouts du jeu vidéo en les taclant derrière, en disant bon, on va faire ça comme ça quand même pour des trucs sérieux, quoi, du vrai travail, mais c'est quelque chose qui se fait, ouais.
Allez, on continue à parler du jeu vidéo, de notre rapport au jeu vidéo, peut-être, hein, vous aussi, eh bien, vous avez ce rapport, eh bien, soit d'amour ou de détestation du jeu vidéo, on en parle, n'hésitez pas à réagir sur l'appli Inter via des notes vocales et vos messages. En attendant, on s'écoute Yoa avec Maddy.
Je me sens seule ce soir. Je prie pour te le faire savoir. Bébé. Sur l'oreiller, je porte tes tresses préférées, que tu puisses les agripper pour me dresser. Bébé, le code est envoyé, qu'est-ce qui t'empêche de monter? J'ai laissé les lumières allumées pour te repérer. J'ai pas envie de fesses, je reste joué à Pokémon, je veux une soirée sans stress. Bébé, joue avec moi, comme lion avec sa proie. C'est pas temps pour te voir, que je ne veux pas être seule ce soir. Bébé, quand vient la nuit, je dors pas, je vois gris. Écoute-moi s'il te plaît, je te laisserai tranquille après.
Bébé, bébé, bébé.
Tu me fais perdre mon temps à cacher tes sentiments. On n'est plus en 1900. Si tu veux faire la guerre, je t'attends au tournant. Tu m'as trop cassé la tête et pensais me réduire en miettes. Moi les miettes je les balaye et j'écris cette traque en attendant la paye. Tu me fais perdre mon temps à jouer les gros méchants. Faut que j'aille brûler un encens pour effacer les ondes de ton comportement. J'ai appelé Lola en Jovi. On t'a jeté des sorts toute la nuit. T'étonnes pas si quand tu te lèves, tu te sens malade ou que t'as de la fièvre. Bébé, joue avec moi, comme lion avec sa proie. C'est pas tant pour te voir que je ne veux pas être seule ce soir. Bébé, quand vient la nuit, je dors pas, je vois gris. Écoute-moi s'il te plaît, je te laisserai tranquille après. De toute façon, j'ai pas besoin de toi. J'suis jamais seule quand je suis avec moi.
Le débat de midi. sur France Inter.
Le débat de midi, nous vous évoquons notre rapport aux jeux vidéo. Alors, haine ou amour, voilà, on essaye hein, voilà, de trouver en tout cas des thématiques. Mais c'est vrai, hein, le jeu vidéo est tellement répandu, beaucoup plus puissant aujourd'hui économiquement que le cinéma et la musique, alors qu'il est infiniment moins traité par les grands médias. Comment ça se fait? Alors, pour en discuter, nous avons autour de la table Héloïse Linossier, journaliste, cofondatrice d'un nouveau média indépendant, Origami, qui arrivera en septembre 2023. Paul Arrivé, journaliste e-sport, on va en parler dans un instant. À l'équipe également, Boris Kriwicki, qui est chercheur à Liège, spécialiste de la presse jeux vidéo, et Sunday, donc streameuse jeux vidéo sur la plateforme Twitch. Alors j'en parlais à l'instant aussi, vous pouvez bien sûr réagir via l'appli France Inter pour des notes vocales et des messages comme nous a laissé Sébastien. Et c'est assez intéressant ce que dit Sébastien, puisqu'il dit « À la rentrée prochaine, mon fils doit faire un cursus e-sport ». Cyber athlète. Au début, Paul, au début, quand il m'en a parlé, j'étais dubitatif, écrit-il, et en me renseignant auprès de l'école qu'il visait, je me suis dit qu'il serait encadré. L'enseignement supérieur est très en retard sur le sujet. Est-ce que, d'après vous, en effet, quand on voit des parents qui ont des enfants qui veulent se lancer dans l'e-sport, ça peut être un petit peu... c'est compliqué.
Ouais, c'est très compliqué. Et alors, en fait, moi, j'ai plus une vision de l'e-sport comme il existe du sport-études, en fait, finalement, où on accompagne des jeunes autour d'un cursus qui est classique, qui est généraliste, en lycée notamment, et avec qui on va apporter un peu plus de, voilà, de sport, parce qu'ils ont un potentiel pour devenir sportif de haut niveau. Moi, je pense que ce qui serait intéressant pour l'e-sport, ce serait quelque chose plus comme ça que des écoles de formation qui t'aident à devenir joueur pro. J'ai un peu du mal avec ce genre de concept, parce qu'on n'apprend pas à devenir joueur pro comme on n'apprend pas à devenir footballeur. Il y a quelque chose qui se construit au fil des années, j'ai envie de dire un petit peu inné, du talent, etc. Et je pense que c'est plus adapté aujourd'hui que des écoles d'e-sport, qu'on voit un peu moins. Maintenant, aujourd'hui, les écoles, en général, sont des écoles un peu plus généralistes, où on apprend plein de choses autour du métier du jeu vidéo et de l'e-sport, qui ne sont pas seulement apprendre à bien jouer au jeu, mais voilà aussi quels sont les métiers autour de cette discipline, mais aussi du jeu vidéo, qui vont de l'organisation d'événements, la communication, même manager, psychologue, coach, kiné maintenant dans ce milieu-là, qui sont plus intéressants.
La kiné, il faut bien expliquer. Non, mais c'est ça qui paraît étonnant, c'est que e-sport, c'est-à-dire quand on parle de sport, il y a des kinés, on les imagine,
y a des blessures,
on voit très bien. Et c'est quoi alors, c'est des foulures, c'est quoi les blessures au e-sport?
Le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien,
on bloque,
une tendinite qui se bloquent, qui sont des choses qui arrivent souvent quand on a 45-50 ans et qu'on a des mauvaises postures devant un écran pendant très longtemps. Bah, ça arrive à 20 ans dans l'e-sport. Ouais, parce que, en fait, ça va paraître bête, mais le bras et le poignet sont mis à rude
épreuve.
Très sollicités. C'est des gens qui appuient beaucoup dessus. Il faut quand même se rappeler que, même s'il y a le côté virtuel, parce que la partie se joue à l'intérieur du jeu, ça reste quand même des humains derrière qui doivent créer les interactions qui font que le personnage ou les personnages vont réagir. Donc ton outil de travail, ça reste ton corps.
Et c'est, il faut y faire c'est attention. Ça. Alors, en effet, donc Paul, vous êtes journaliste e-sport à l'équipe, donc le quotidien de référence sportif. Si vous vous demandez, si vous êtes toujours étonné, en effet, on a vu des reportages, c'était à Bercy, un jeu qui s'appelle Counter-Strike, donc où là, il y avait une finale et ça a rempli, enfin, je ne sais pas combien de monde, mais c'était assez impressionnant. 12 000 personnes. Sachez que le Comité international olympique a donné le coup d'envoi, donc le 22 juin dernier, de la première édition de la semaine olympique de l'e-sport. Ouais. C'était donc à Singapour, consacré à la pratique compétitive du jeu vidéo et du sport virtuel. Héloïse Linossier, c'est assez étonnant aussi de voir ça, la manière dont ça s'est pris. Là, on le voit que là, maintenant, il y a un nouveau canal auquel les médias commencent petit à petit à s'intéresser, l'e-sport, parce qu'au départ, on le regarde ça un peu en s'amusant et puis on se rend compte du succès. Est-ce que, d'après vous, l'e-sport aussi peut favoriser finalement une meilleure entente entre grands médias et jeux vidéo?
Je pense que ça y a déjà participé, parce que ce qui est simple avec l'e-sport, c'est qu'on peut parler de chiffres aussi.
Oui, tout à fait.
On a les cash prizes, donc les prix qu'on reçoit. Je me rappelle, c'était quoi? C'était 1 million d'euros pour Fortnite à un moment.
C'était 3 même.
3 millions d'euros.
C'est-à-dire quoi? On gagnait 3 millions d'euros, c'est ça, au final? C'était ça?
Je sais plus si c'était 3 millions au global ou si c'était 3 millions pour le vainqueur, mais c'était à minima 1 million pour le vainqueur.
Et ça
c'était 3 millions pour le vainqueur.
C'est ça?
Ça parle aux gens. Je me rappelle qu'il y avait des parents qui disaient, ah bon, c'est bon, je vais mettre mon enfant à Fortnite maintenant et puis il va me rapporter 3 millions d'euros dans quelques années. Quoi. Ouais, donc ça fonctionne. Généralement, quand on parle de chiffres, ça fonctionne un peu mieux, on commence un peu mieux à comprendre, mais ça bloque toujours face à ces stéréotypes derrière. Quoi.
Et fameux stéréotypes, alors on va en parler juste là, concernant les rapports hommes-femmes dans le jeu vidéo, est-ce qu'aujourd'hui on a autant de joueuses que de joueurs ou ça reste quand même encore un milieu extrêmement masculin?
Alors, on a autant de joueurs que de joueuses. Il y a un rapport du CEL qui est sorti sur ça. Et qui...
Qu'est-ce que c'est que le CEL?
Le CEL, c'est le syndicat des éditeurs de jeux vidéo. En France, notamment. Et du coup, on a ce rapport où en France, en tout cas, il y a une répartition égale à 50% hommes-femmes sur le jeu vidéo. Néanmoins, par contre, ce n'est pas du tout les mêmes types de jeux vidéo auxquels les hommes et les femmes jouent. Ce qui fait qu'on peut avoir une perception très différente selon les communautés de jeux vidéo dans lesquels on est, de l'expérience qu'on peut avoir. Il y a notamment une préférence pour les jeux d'action, il me semble, côté masculin, là où côté féminin, on est plus sur des jeux de type sociaux, en fait, tout simplement.
Et puis, il y a aussi le fait que les joueuses sur les jeux d'action dont tu parlais, Sunday, c'est plus compliqué de se faire une place là-bas parce que quand on allume, c'est souvent des jeux avec des chats vocaux, on va pouvoir discuter avec nos partenaires de jeu et il y a un sexisme quand même qui est très présent et du coup quand on ne se sent pas accueilli dans un milieu qui semble très masculin, soit on va chercher des moyens de trouver des groupes d'amis de filles ou de garçons d'ailleurs pour créer nos équipes et pouvoir s'en sortir, soit juste on va se tourner vers d'autres types de jeux. Quoi.
Voilà, alors pour bien expliquer, ce sont donc des jeux en fait qu'on en ligne, c'est-à-dire sur internet en fait, on se connecte et là en effet il y a à côté un chat et qui vous permet en fait, alors c'est des jeux où on évolue, c'est ça,
dans un univers. C'est un chat vocal, c'est comme si on était en appel.
Et il y a un chat vocal qui vous permet donc d'intégrer des équipes, en fait ces équipes-là qui vont vous permettre d'évoluer dans le jeu et c'est là où les rapports hommes-femmes sont.
C'est des équipes qui sont formées quand on choisit pas de jouer avec ses amis de manière aléatoire. Et du coup, on peut se retrouver avec des personnes qui, ça va être raciste, sexiste, etc. Il y a un gros travail de modération encore à faire sur les jeux vidéo pour que tout le monde se sente vraiment inclus dedans. Et comme disait Boris Kriwicki tout à l'heure, on peut parler des beaux sujets et défendre du coup notre hobby, notre média culturel préféré, mais il faut aussi parler de ce genre de sujet derrière.
C'est ça, Boris Kriwicki, tout simplement, est-ce que le jeu vidéo, quand on parle de violence autour du jeu vidéo, il est tout simplement aussi l'image de la société. Quand on voit certains qui le pratiquent, on ne s'est pratiqué par des citoyens et des citoyennes, des habitants aujourd'hui de la société 2023.
Oui, c'est ça, et c'est le rôle aussi des journalistes d'embrasser le sujet jeu vidéo dans sa globalité, quoi, et de parfois comprendre ses travers, de parfois comprendre la place qu'il a dans la vie des gens, et c'est pour ça que c'est important que les médias généralistes s'en saisissent aussi comme d'un sujet global au sein de la société, et aussi parce que en face, les journalistes spécialisés ont moins de temps pour traiter tous ces sujets externes. Parce qu'ils doivent avant tout chroniquer les nouveautés, donner leur avis sur les jeux qui sont extrêmement attendus. Il y a un public qui les suit pour ça. Ils doivent accomplir ce rôle-là. Tandis que les médias généralistes, qui sont moins attendus au tournant sur les nouveautés, peuvent du coup explorer des sujets un petit peu plus divers, plus diversifié et ouvert.
Oui, c'est ça. On voit en effet, parce que c'est un milieu en effet très très vaste. Alors sur WhatsApp au 07 64 13 70 07, vous nous laissez des commentaires et notamment Teddy. Alors là, Teddy justement qui nous parle véritablement des jeux vidéo comme une nouvelle forme d'art numérique qui réunit en fait tous les autres. Il voudrait d'ailleurs aussi saluer, bien sûr Olivier Bénis fait une chronique sur France Inter autour des jeux vidéo, mais aussi Sunday, il faut prendre conscience aussi de ça. En effet, le jeu vidéo, ça réunit un nombre de personnes assez étonnant à fabriquer. Quand on voit en plus, aujourd'hui, c'est des jeux vidéo. Alors, c'est assez marrant quand on n'y a pas joué depuis très longtemps. Si, comme moi, vous avez joué à Mario il y a quelques années, eh bien, tout simplement, le petit plombier, il se cognait à la fin. Voilà. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est des univers étendus, comme on appelle ça. Et il faut donc des programmateurs, des scénaristes, des musiciens aussi. On se rend compte que c'est véritablement un générique de film. Et pour vous, aujourd'hui, est-ce que ça fait partie, en effet, d'une discipline d'art numérique, le jeu vidéo? Est-ce que c'est de l'art?
Wow, est-ce que c'est de l'art? Ouais. C'est une grande question. Est-ce que... Surtout que, après, est-ce qu'on peut considérer que tous les jeux vidéo sont de l'art ou que seulement certaines œuvres sont des œuvres d'art? Enfin, c'est un peu complexe à ce niveau-là. En tout cas, c'est un corps de métier qui rassemble tellement de personnes différentes aux multiples talents qui travaillent ensemble. Enfin, c'est en tout cas quelque chose qui force clairement le respect. Je pense que, comme tout œuvre, d'une certaine façon, ça peut faire rêver. Mais après, il y a vraiment cette différenciation entre est-ce qu'un Candy Crush va faire autant rêver que finalement un Zelda.
Cinéma, on regarde pas un Godard comme on regarde. Je vais pas citer de nom parce que je vais pas.
Voilà, ça va parler différemment. Mais en tout cas, je comprends qu'il y ait un ressenti sur le côté artistique de la chose. Bien sûr. Que ça va vraiment emmener dans des univers comme le ferait un livre, comme le ferait un film, comme le ferait de la musique. Enfin, ça transmet vraiment quelque chose de l'émotion aux gens.
On est vraiment dans l'immersion. Paul Arrivé aussi, c'est ce que vous diriez vraiment. Est-ce que le jeu vidéo, alors c'est vrai que vous sur l'e-sport, on est moins, voilà, c'est ça la différence. Il faut se rendre compte que les jeux e-sport sont un peu moins travaillés graphiquement, on va dire, ou pas?
Si, quand même. Surtout que avec les nouveaux jeux qui sortent, il y a des mises à jour qui font que voilà, ils se mettent à niveau graphique de la période dans laquelle on est quand même. Mais oui, c'est vrai que on est moins là avec les jeux compétitifs e-sport pour le côté artistique, pour la musique, pour le scénario que pour se taper sur la tronche. Quoi.
Par exemple, pour bien expliquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas le e-sport, le jeu de e-sport le plus populaire auquel on joue vraiment dans le monde entier, c'est quoi?
C'est League of Legends, je pense.
Qu'est-ce que c'est, alors?
Qui est un jeu qui se joue à 5 contre 5, deux équipes de 5, voilà, chacun a sa base, et le but, c'est de détruire la base adverse. Et voilà, les équipes de 5 doivent se créer en façonnant des synergies entre les différents personnages. Il faut communiquer avec ses coéquipiers pour bien avancer, bien prendre. C'est un peu du gagne-terrain sur la carte de jeu. C'est un jeu qui est assez complexe à regarder, à aborder quand on n'a jamais joué, même s'il y a ces derniers temps, on voit avec des grosses personnalités du streaming qui ont créé leur club d'e-sport, qui ont réussi à faire venir dans ce jeu-là et à s'intéresser à la compétition des gens qui n'avaient jamais joué. C'est pas le jeu le plus abordable.
C'est
un jeu de stratégie. Ouais.
Et alors, juste pour rassurer les parents qui entendent là sur le jeu vidéo, le e-sport, c'est les vacances, un enfant qui dit j'aimerais me lancer dans le e-sport. Est-ce qu'aujourd'hui on en vit du e-sport?
Oui, on en vit très très bien, même quand on est un joueur de très haut niveau. Après, c'est comme dans le foot, il y a énormément de gens qui jouent au foot, mais il y a une élite seulement qui s'en sort très très bien, qui est payée. Bah, dans le jeu vidéo, c'est un petit peu pareil. Dans l'e-sport, c'est un petit peu pareil. Et en France, on a, je pense, en tout, plus d'une centaine de joueurs, voire un peu plus, je pense même aujourd'hui, qui vivent de ça, qui vivent même bien de ça. Mais voilà, ça reste quand même que une centaine, 150 joueurs. Ça reste vraiment l'élite par rapport au nombre de joueurs qui se comptent en centaines de milliers de League of Legends, par exemple, en France.
Boris Krivicki, pour vous, est-ce qu'il y aurait une manière aujourd'hui, par rapport aux médias, on l'a vu là, sur le sport, on l'a vu en effet sur les rapports hommes-femmes à l'intérieur, est-ce que pour vous, il y aurait une manière pour les médias de bien traiter les jeux vidéo, ou alors la scission maintenant est faite depuis tellement longtemps que ça sera irrattrapable?
On traite bien le jeu vidéo en faisant du bon journalisme, en fait.
Et donc,
il s'agit d'appliquer les bonnes techniques, la déontologie, toutes les pratiques qui sont validées dans la profession à ce sujet-là. Alors, bien sûr, ça dépend la façon dont on veut le traiter et la finalité. Si le but, c'est de s'adresser à des joueurs et joueuses spécialistes, là, il y a tout un lexique, il faut passer beaucoup de temps, il faut finir les jeux, il faut les parcourir dans leur entièreté, etc. Donc là, c'est compliqué. Et je pense pas que les médias généralistes doivent avoir spécialement vocation à remplir ce rôle-là. Je pense qu'il faut plutôt faire comme vous le faites, en fait, aujourd'hui, attiser la curiosité du grand public et les sensibiliser au fait que, c'est un loisir et même un art qui a une place importante dans la vie des gens. Il y a des personnes qui sont en perdition socialement, qui peuvent être sauvées par ça. Il y a des personnes qui peuvent faire une carrière autour de ça. C'est là qu'on va comprendre toute l'importance qu'a le jeu vidéo dans la société actuelle. Et de là, on peut faire des reportages, on peut faire de l'investigation, on peut faire de l'interview, tous les genres journalistiques codifiés qu'on entend au quotidien sur toute une série de sujets.
Mais Boris Krivicki, pour vous, c'est la même question que je posais tout à l'heure à Sunday. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que des critiques de jeux vidéo devraient avoir la même place qu'une critique de cinéma ou la critique de disque?
La même place, ben en tout cas, ce qui est intéressant, c'est en fait dans la presse jeux vidéo, on parle pas de critique, on parle de test.
D'accord.
Et ça, c'est un vieil héritage des années 90 et même avant, où les jeux vidéo ne fonctionnaient pas toujours. Et donc il y avait un rapport très technique, très banc d'essai. Est-ce que ma machine fonctionne? Est-ce que le logiciel fonctionne? Et on a gardé ce vocable-là en fait. Et dans la profession, ça fait débat. Est-ce qu'on fait des tests? Est-ce qu'on fait des critiques? Et parfois, les journalistes spécialisés qui vont avoir vocation à revendiquer le jeu vidéo comme un objet culturel et à vraiment analyser sa portée, à défendre l'univers qu'il crée, peut-être parfois sa musique, etc., vont parfois se rapprocher des préceptes de la critique cinématographique ou de la critique musicale et vont revendiquer ce terme. C'est quelque chose que fait le magazine JV, par exemple.
D'accord.
Donc voilà, en fait, c'est une question de positionnement. C'est une question de positionnement, tout simplement.
Et Héloïse Innocier, toujours un peu bloqué dans cette idée de tech, en effet, ou pas le jeu vidéo, d'après vous?
Alors, moi, le magazine dans lequel j'écris, c'est son petit slogan derrière, sa petite tagline, c'est culture jeu vidéo. Donc, culture jeu vidéo. Donc, nous, vous ne verrez pas dans nos pages, on ne va pas parler de technologie. On voit vraiment le jeu vidéo comme un objet d'art, un objet culturel. Et on fait effectivement des critiques.
C'est des critiques.
Oui, non, moi, je vais parler vraiment s'il y a un bug bloquant et que je n'ai pas pu finir
Qu'est-ce
le
que
jeu.
C'est qu'un bug bloquant.
Un bug bloquant, c'est quand vous arrivez à un point du jeu où, d'un coup, parce qu'il y a une erreur du coup, dans la programmation du jeu, vous ne pouvez plus continuer ce jeu.
Pour moi, c'est le premier niveau à chaque fois.
Ça peut s'appeler comme ça, mais là, c'est pas la programmation du coup. mais oui, du coup, pour Origami, on a encore une nouvelle posture par rapport à ça, où on va essayer de parler des jeux sans forcément les avoir finis, en ayant plusieurs personnes autour de la table qui vont pouvoir parler de ce jeu et aussi parler en fait du contexte dans lequel il a été créé. On veut plus en fait sortir de ce côté social, on veut parler des conditions de travail, s'il y a eu des problèmes de harcèlement aussi, des problèmes de crunch.
Comme il y en a eu, on en a déjà beaucoup parlé. Hein. Par contre, ça, dans les médias, on a parlé aussi des problèmes de harcèlement.
On en a beaucoup parlé et c'est un point assez intéressant, c'est les enquêtes sur Quantic Dream, du coup le studio, c'était une enquête qui était faite en collaboration avec Canard PC, qui est un magazine spécialisé dans le jeu vidéo, avec Le Monde et avec Mediapart, si je me souviens bien. Oui. C'était voilà, nous, on sait que de notre côté, dans la presse spécialisée, c'est un peu compliqué pour nous de faire de l'enquête parce que ça coûte cher, qu'on n'a pas les moyens, qu'on est des toutes petites équipes en indépendant pour faire de l'enquête et que sur Internet, c'est pas forcément ce qui marche le plus parce que Google va pas forcément mettre ça en avant. Et du coup, là, on peut faire appel du coup aux médias généralistes qui ont eux plus les moyens, mais peut-être moins de compétences, souvent ils ont leur expertise dans leur service, pour pouvoir du coup faire du journalisme, de l'enquête, comme on souhaite le faire dans le jeu vidéo.
Oui, c'est ça aussi, Paul Arrivé, il y a un moment aussi, bien, il va falloir journalistes, nous mettions à faire des enquêtes, des critiques, de regarder davantage, parce que là je regardais par exemple, en effet, le succès de Zelda, beaucoup de journaux en ont parlé, mais ils ne parlent que du succès, ou dans les pages échos, souvent les pages économiques.
Ouais, moi je pense que de manière globale, il faut comprendre que le jeu vidéo, pas seulement l'e-sport, mais voilà, est un vrai sujet aujourd'hui qui intéresse les gens en fait. C'est aussi simple que ça.
Ouais.
Et comme disait Boris tout à l'heure, il faut apprendre à le traiter, mais de la façon avec laquelle on bosse aujourd'hui. Alors avec une astérisque quand même. Enfin, tu l'as dit, Origami, vous allez vous déporter finalement sur des nouveaux médias, sur
c'est
Twitch,
ça.
Sur YouTube.
Exactement.
Moi je pense aussi que c'est un peu l'avenir du traitement journalistique du jeu vidéo et même de l'e-sport. Moi, c'est quelque chose que je pousse aujourd'hui à l'équipe, de qu'on revienne sur Twitch, qu'on fasse plus de vidéos, etc.
Parce que Twitch, c'est aussi ces formats-là, c'est une plateforme qui fait fantasmer beaucoup de médias traditionnels, mais à la base, c'est vraiment fait pour les jeux vidéo, hein. C'est ça ou pas
À la base,
est vraiment dans les discussions autour des jeux vidéo sur Twitch ou pas
En fait, à la base, c'était du jeu vidéo, c'était Justin TV d'ailleurs, cette plateforme. Et aujourd'hui, c'est plus du tout la première catégorie regardée sur Twitch, c'est une catégorie qui s'appelle Just Chatting, donc on discute simplement.
Ah, d'accord, bien.
Et donc c'est beaucoup de personnes qui simplement sont devant leur écran et qui discutent de sujets très variés. Il y a également plein d'autres sujets, on peut trouver de la cuisine par exemple, c'est assez populaire.
Ah oui
Oui, il y a beaucoup de gens qui font des lives en direct. Il y a des lives politiques,
exactement.
Ouais, tout à fait, ouais.
Il n'y a pas que du jeu vidéo sur Twitch, mais ça fait partie de son ADN.
Et Twitch s'en écarte de plus en plus, ils essaient
essaye d'aller capter des nouveaux marchés, en fait, finalement, dont le sport, par exemple, c'est quelque chose sur lequel ils sont très très focus en ce moment.
Allez, on va continuer à parler de notre rapport aux jeux vidéo et vous verrez que c'est très loin d'être terminé quand on voit ce qu'il se prépare. En attendant, on s'écoute Gorillaz avec Tormenta. The sun in his drawers, sunny cries. Someone crying, someone. And something is said, sunny cries. Someone crying, someone. Ay, ay, y aprovechame hoy, que mañana me voy. Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo. Y aprovechame hoy, que mañana me voy. Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo. Y nadie la pidió, pero estamos aquí. Yo no sé si fue Dios, ay, pero creo que lo vi. Cuando me besaste, no sé cuándo llegaste. Pero no quiero que te vayas, no sé contraste.
Quiero ver el mundo arder, pero algo tan bonito no se puede perder. El reloj no quiere morder, pero en tus brazos me voy a esconder. Ey, pa' que no me encuentren. Todo el mundo siempre está pendiente, pero no saben lo que se siente. Cruza conmigo antes que se rompa el puente. Hey, y que se jode el resto. ¿Quién dice lo que está correcto? Si el amor nunca ha sido perfecto. Ojalá sea por siempre este momento, pero si no aprovecho. The sun in his drawers.
France Inter. Jean-Mathieu Pernin. Le débat de midi.
Le débat de midi, nous parlons de notre relation avec les jeux vidéo. Alors, est-ce qu'on les aime, est-ce qu'on les déteste? N'hésitez pas à nous faire part de vos sentiments sur l'appli Inter, également par des notes vocales ou vos messages, en tout cas également par WhatsApp au numéro suivant 07 64 13 70 07. On en parle avec Héloïse Linossier, journaliste, spécialiste jeux vidéo, également Paul Arrivé, lui, journaliste e-sport à l'équipe, Boris Krivicki, qui est chercheur autour du jeu vidéo, et Sunday qui est streameuse justement jeu vidéo sur Twitch. Alors j'avais une question, c'est vrai qu'on l'a un peu évoqué au début de l'émission, mais Héloïse, quand on parle de jeux vidéo, est-ce que quand le monde politique évoque les jeux vidéo, est-ce que pour vous, est-ce que ce sont des gens qui l'ont compris? Parce qu'il est vrai que de temps en temps, on a vu des ministres de l'économie ou même des secrétaires d'État au numérique qui disent « Ah, le jeu vidéo, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est super, on va aider, on va même financer. » Aujourd'hui, on va permettre à des entreprises de se créer. Et de l'autre côté, vous l'avez dit tout à l'heure, on le pointe du doigt par rapport à la violence. Est-ce qu'il y a toujours cette ambiguïté aussi chez les politiques par rapport aux jeux vidéo?
Je pense que les politiques, il y a deux intérêts. Il y a d'un côté le côté économique, parce que la production en France de jeux vidéo, c'est quand même un secteur qui est de plus en plus intéressant et qui l'est depuis quelques temps. Mais dès 2003, on s'y intéressait. Il y avait un plan pour relancer en fait le jeu vidéo français parce que il y avait de plus en plus de concurrence en Europe, etc. Mais du coup, il y a ce côté-là, et puis il y a l'autre côté qui est, bah, c'est quand même un bon moyen, si on parle positivement du jeu vidéo, de s'attirer une population qui vote peu et qui vote pas forcément du coup pour son parti, qui est la population des jeunes. Donc on a vu, c'était je crois en 2017. 2017, oui, il y a eu des jeux qui ont été faits par des partis politiques. Oui. Il y a les jeunes insoumis qui ont fait un jeu. Pour les européennes, il y a eu aussi un jeu du côté du coup LREM.
Mais est-ce que l'erreur justement de ces partis, c'est ne pas de penser que finalement les jeux vidéo aujourd'hui c'est tellement répandu que ce n'est pas une seule communauté, tout le monde joue aux jeux vidéo, donc c'est ça, on
oui,
est tous différents.
Oui, c'est une communauté qui est assez peu politisée finalement. Il y a toute une partie et il y a eu énormément de papiers qui expliquaient comment aux États-Unis on est allé chercher du coup des populations jeunes qui étaient peut-être un peu isolées, qui n'étaient pas forcément politisées pour les ramener vers l'électorat trumpiste
d'accord.
en fait.
Ah oui, d'accord.
Donc oui, il y a des papiers qui sont super intéressants sur le sujet, qui font du coup un trait direct entre Steve Bannon et aussi le fait qu'il y ait aujourd'hui pas mal de personnes aux États-Unis qui sont joueurs, qui sont sexistes, qui votent du coup Trump, etc. Donc il y a un trait direct à faire parce que on se retrouve avec une population qui s'intéresse pas forcément aux médias généralistes, qui vont pas forcément avoir la curiosité d'aller chercher. Et on peut aller chercher directement sur les forums et leur dire écoutez, oui vous avez raison, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et recruter du coup des électeurs.
C'est ça, des électeurs. Alors on va écouter Marie qui nous a laissé une note vocale sur l'appli Inter. Vous allez le voir, elle parle justement, elle s'interroge sur la santé et les jeux vidéo.
Bonjour, je trouve les jeux vidéo absolument fascinants. Je travaille dans la communication et c'est quelque chose que j'étudie et que j'intègre dans ma pratique au jour le jour. Je me pose juste une question. Vous savez très bien que les écrans, et on sait très bien que les écrans ont des effets néfastes pour la santé, et les sports est censé être quelque chose de bénéfique. Comment vous pensez contraster cela ? Enfin, vous et les syndicats des jeux vidéo, qu'est-ce qui est mis en place par la communauté pour contraster ces effets qui peuvent avoir beaucoup, beaucoup des effets néfastes sur la santé sur les longs termes. Merci.
Voilà, une note vocale depuis l'appli Inter. Alors, c'est vrai que Marie se pose cette question, comme beaucoup aussi, on a des questions sur la santé. Ça revient souvent, Paul Arrivé, on se demande toujours leur rapport, bien sûr, aux écrans et surtout le fait de jouer tout le temps.
Le problème, c'est l'excès, de toute façon. C'est toujours une question de comment est-ce qu'on gère son temps devant l'écran. Je pense que le problème, c'est pas l'écran en soi, c'est c'est l'utilisation qu'on en fait et c'est l'utilisation avec excès. J'entendais dans la note vocale le rapport avec le sport, les e-sportifs. C'est souvent une confusion qu'on a, les gens disent il ne faut pas faire croire aux jeunes qui font du jeu vidéo, qui font de l'e-sport, que ce sont des sportifs. Pas en jouant, en effet, mais ils le savent très bien, ils ne se prennent pas pour des athlètes de très haut niveau quand ils jouent. Par contre, leur discipline fait qu'ils doivent avoir une discipline d'athlète, et derrière, ils font du sport, ils font attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils mangent, comment ils dorment. Je parlais des kinés tout à l'heure, ce qui fait que je me contredis un petit peu avec ce que je viens de dire. Ce sont des athlètes, mais ils savent qu'ils ne sont pas des athlètes dans leur pratique de l'e-sport au quotidien. Et encore une fois, c'est vraiment, il faut faire attention à ça, et on peut faire du sport comme on peut faire de l'e-sport à côté, et les deux sont souvent assez complémentaires.
Boris Krivicki, on l'entend souvent aussi, cette critique par rapport à la santé, par rapport aux écrans. Il n'y a pas que le jeu vidéo dans les écrans, notre consommation d'écran, elle va au-delà du jeu vidéo quand on passe notre temps dessus, mais c'est vrai qu'on l'entend régulièrement par rapport à la santé.
Oui, effectivement, c'est un angle à aborder dont on peut se saisir, et pour continuer dans ce propos sur la diversité des angles, les différents moyens d'aborder ce sujet-là, une façon de s'interroger, de voir tiens, comment est-ce que le jeu vidéo prend place dans la vie des gens, comment est-ce que parfois le rapport au jeu vidéo peut se construire après l'écran, au-delà de l'écran. Les jeux comme Zelda, qui ont un univers très fort, c'était des jeux dont on peut continuer d'être habité par ces jeux en étant éloigné de la console. Certains vont prolonger leur expérience en écrivant leur propre histoire, on appelle ça des fanfictions. Donc on va écrire ses propres histoires avec les personnages du jeu vidéo, et on garde ce rapport très étroit, très presque sentimental, mais en s'éloignant de l'écran. Donc ça serait intéressant d'interroger journalistiquement comment le jeu vidéo peut être une passion qui est aussi habitée en dehors de l'écran.
Alors, sur WhatsApp, Janine qui nous dit « Mon constat de mère, hein, les jeux vidéo en raison ont permis de donner un très bon niveau en anglais à mes fils. Je vais suivre leur exemple. » Alors, Sunday, alors ça, ce sont plusieurs messages, en effet, qu'on reçoit sur l'anglais. Oui. En effet, alors, le jeu vidéo, de temps en temps, ça peut un peu... Voilà, on le sait, quand on reste un week-end à jouer aux jeux vidéo, on peut sortir un peu abruti. Mais c'est vrai que bah, c'est comme regarder des séries en VO, en fait, finalement. Hein. C'est la même chose aujourd'hui que de regarder aussi. Ça donne un petit niveau en anglais.
Complètement. Et ça, j'ai mon expérience personnelle qui est exactement celle-ci. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais une console qui s'appelle la Dreamcast. Et je jouais beaucoup à Sonic dessus. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore...
Sonic est un hérisson. Hein, donc,
Sonic, c'est un hérisson bleu qui va très vite. Voilà, c'est exactement. Voilà.
C'est film aussi au cinéma.
C'est ça, exactement.
Il a eu ses films au cinéma, exactement. Et donc, ce jeu vidéo avait ses dialogues qui étaient disponibles uniquement en anglais et j'avais les sous-titres en français. Ce qui fait que, comme j'y passais beaucoup d'heures, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, eh ben, j'ai en fait appris et eu des facilités très, très fortes en anglais pour ça. Et ce qui, en fait, très, très jeune dans mes études, j'avais vraiment une avance par rapport à des personnes qui n'avaient pas eu cette chance-là d'avoir l'anglais comme ça.
Ouais, c'est une chose. Alors, rapidement, Héloïse, alors, désolé, assez rapidement, mais alors, ça, c'est souvent une question qu'on entend. Bonjour, existe-t-il des jeux où, au lieu de chercher à détruire l'adversaire, l'objectif est de valoriser la coopération pour construire quelque chose? Alors, ça, on l'entend vraiment beaucoup. Ça existe.
Il y a des jeux écolo, il y a des jeux où juste on va organiser une maison comme ça, des petites maisons de poupées. Il y a des jeux, en fait, vraiment pour tout le monde. Moi, j'aime bien citer souvent pour les personnes qui ne jouent pas, mais qui aimeraient commencer à jouer, le jeu Life is Strange, qui est une très belle histoire. Il y a des jeux narratifs où on ne fait que le lire, où on fait quelques choix, etc., pour voir le côté interaction. Mais oui, il y a des jeux vraiment pour tout le monde. Vous trouverez de tout.
Ok, oui, donc ça existe véritablement et ça peut rassurer tout le monde. Enfin, une dernière chose à propos voilà d'un message assez étonnant. Est-ce qu'il faut aller voir, alors Paul peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il faut aller voir les adaptations de jeux vidéo au cinéma? Quand on a vu Mario, ça a fait 5 millions, il y a Gran Turismo qui sort.
Moi, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas trop m'avancer. Je pense que ça dépend des films. Pour le coup, c'est inspiré des jeux vidéo, mais après, ça reste une qualité ou non de films.
Parce qu'on a l'impression qu'Hollywood a un peu trouvé la poule aux œufs d'or, là, de nouveau. On a vu quelques films, en effet, adaptés ces derniers temps.
Je pense que c'est un levier pour eux assez
intéressant. Regardez The Last of Us.
En tout cas, merci à vous quatre pour votre pédagogie. On a tout compris. En tout cas, c'était formidable. Merci beaucoup, Héloïse Linossier, Paul Arrivé, Boris Krivicki et Sunday, d'avoir participé au débat de midi. Et ça tombe bien, France Inter, il est 13h.